BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, top départ, prise 2, il est 9h31, vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts. On est ensemble pour une heure de débat et de controverses jusqu'à 10h30, avec un thème aujourd'hui qui écrase tout le monde, évidemment, c'est la canicule, école fermée, train ralenti, entreprise désorganisée, la canicule révèle le coût de notre impréparation. 240 milliards de dollars de PIB en moins sur la période 2026-2030, selon une étude d'Allianz. La France ferait tout simplement partie du top 4 mondial des pays les plus exposés d'un point de vue économique. Alors après 20 ans d'alerte et 3 plans nationaux, pourquoi notre pays tarde-t-il encore à adapter ses bâtiments, ses transports et son économie? Et puis surtout, qui va devoir payer? Ce sera le premier thème des débats aujourd'hui avec mes experts. Autre débat, le MEDEF qui propose, lui, de transférer 30 milliards d'euros de cotisations vers la TVA, la CSG. Et puis évidemment aussi, quelques économies, une vraie réforme pour approcher le salaire brut du salaire net. Ou simplement une nouvelle manière de déplacer la facture. On verra ça, ce sera le deuxième débat. Et puis enfin, Vivatech, tout le monde en parlait. Évidemment, je veux parler de la souveraineté numérique. Mais face au cloud américain, aux puces asiatiques et au retard d'investissement, l'Europe peut-elle encore reprendre le contrôle de son espace numérique? Ce sera le dernier thème des experts ce matin. Voilà, il est 9h passé de 32 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business et vous y êtes bien. Allez, c'est parti. Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Ingrid Barra. Bonjour Ingrid.
Bonjour.
Économiste spécialiste des finances publiques. À vos côtés, Dany Lang, qui vient tout juste d'arriver. Bonjour Dany.
Non, vous nous confondez.
Oui, pardon.
Mais...
Et en plus, c'est pas tout à fait les mêmes. Je retourne mon regard vers la gauche, ma gauche. Dany Lang, bonjour. Enseignant-chercheur en économie à Sorbonne, Paris Nord. Et Léonide Aspar, mais comme vous êtes un petit nouveau dans l'émission, je vous comprends encore l'un et l'autre.
Nous sommes tellement nouveaux que ça fait un certain nombre d'années.
C'est 15 années que
nous sommes nouveaux.
Léonidas Kalogeropoulos, PDG de médiation et argument, délégué général de l'Open Internet Project. On parlera souveraineté numérique en fin d'émission. Merci à tous les trois pour cette émission marquée d'abord et avant tout aujourd'hui par la canicule. Bien sûr, combien coûte notre impréparation, très cher selon Allianz Trade, qui a chiffré tout ça. On va écouter Margot Faudéré, qui ce matin nous a fait une petite présentation des chiffres qui font peur. On l'écoute tout de suite.
Oui, et dans le cas de la France, si l'on se place dans un scénario de crise, cela représente 240 milliards de dollars de PIB en moins sur la période 2026-2030. En fait, selon Allianz Trade, la France fait tout simplement partie du top 4 mondial des pays les plus exposés d'un point de vue économique. On estime qu'une journée de canicule dans notre pays a le même coût qu'une demi-journée de grève nationale. Dans le détail, la production horaire diminue de plus d'un euro dès que la température dépasse la barre des 30 degrés. En plus, les fortes chaleurs impacte la consommation et l'investissement. Et donc, mécaniquement, les canicules réduisent également les recettes fiscales. Elles pourraient reculer d'1,5% à 2% chaque année.
Voilà, et un autre gros sujet face aux canicules, c'est aussi le logement, Margot.
Au moins un tiers des logements dans notre pays seraient des bouilloires thermiques. Par exemple, seulement un quart des ménages aujourd'hui sont équipés d'une climatisation. Beaucoup d'appartements n'ont toujours pas de protection extérieure comme des volets. Il y a donc encore beaucoup d'axes d'amélioration, surtout que selon une étude d'AXA Climate, il suffit d'investir $1 dans l'adaptation au réchauffement climatique pour éviter des pertes 8 fois plus importantes, notamment sur la valeur des logements.
C'est incompréhensible. Vous voyez, on voit même qu'en investissant $1, ça peut en rapporter 8. Qu'est-ce qu'on attend, Léonidas Kalogeropoulos, pour se réveiller? Ça fait Jacques Chirac au sommet de la Terre, c'était en 2002, notre planète brûle et nous regardons
et on regarde ailleurs.
25 ans
d'accord,
après,
il y a deux sujets quand même différents. Il y a le sujet de la maîtrise du climat et le sujet de l'adaptation de nos logements, de nos conditions de travail à un climat qui a changé. Et ces deux sujets ne sont pas exactement les mêmes, parce que quand je vois qu'on traîne telle mairie de Paris ou tel ministère devant des tribunaux pour non-action climatique, comme si on pouvait, en faisant jouer des variables sur je ne sais quelle isolation thermique sur un bâtiment, peser sur la météorologie qui va faire à Paris. Donc ce sont deux sujets qui sont distincts.
Oui.
Et par rapport à ces sujets, je vois, j'entends ce matin que le Parti écologiste demande 5 jours
de congé climatique.
C'est la proposition de... Ce qui me tétanise, je vais essayer de traiter le sujet avec calme et sérénité. Il y a derrière cette revendication l'idée, et c'est une idée très répandue, que pour faire face ou traiter le problème climatique, il faudrait que nous décroissions. C'est-à-dire que ce qui nous réunit généralement autour de ce plateau, oui, qui est la volonté de réindustrialiser notre pays, a son pendant inverse, de gens qui disent il faut continuer la
désindustrialisation. Il faut moins d'émissions de carbone et donc
arrêter,
baisser la production.
Et quand tout s'arrêtera, tout reviendra à la normale, ce qui est une espèce de truc, millénariste de fin de monde.
Vous n'êtes pas convaincu?
Non, je ne suis pas convaincu, parce qu'il y a tellement de progrès utiles pour maîtriser les émissions de CO2 et effectivement, dans tous les pays exposés à la chaleur, dès que l'on s'approche de la Méditerranée ou que l'on la franchit, eh bien, il y a des climatisations partout. Ces pays se sont totalement adaptés au fait qu'ils fassent plus de 30 degrés 6 mois par an et qu'il faille pouvoir continuer à travailler. Ça, c'est effectivement quelque chose que nous devons appréhender. Alors, bien entendu, ça n'est pas de la maîtrise du climat, mais c'est de l'adaptation au climat, et c'est absolument indispensable.
On a signé beaucoup de textes, je le disais, Jacques Chirac disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». On a regardé beaucoup depuis 25 ans, Ingrid Barra, tout de même. On a écrit beaucoup de textes, le protocole de Kyoto, la COP21, des lois de lutte contre le réchauffement climatique, on a une stratégie nationale bas carbone, etc. Qu'est-ce qu'on a fait du côté de l'adaptation? Moi, je reste stupéfait. Quelle analyse vous tirez de l'action publique dans ce dossier?
Alors, vous titrez une impréparation coûteuse. Je pense que le titre est assez juste et je pense qu'il faudrait même aller un cran plus loin. C'est vraiment le coût du déni. C'est-à-dire qu'on est en France, on a les dépenses publiques les plus élevées du monde et pourtant, on a des écoles qui bouent, on a des hôpitaux où apparemment, il n'y aurait pas la clim partout, même quand ils sont neufs. On pense aussi à la gare de Nantes avec sa nouvelle verrière.
Mais c'est ça qui est dingue aussi. C'est vrai qu'on continue de construire des immeubles entiers en verre alors que...
Voilà. Avec, ou d'ailleurs,
un solarium,
donc si on était en Norvège, pourquoi pas, mais bon, on est en France, et effectivement, on a beaucoup écrit, on a beaucoup fait, on a beaucoup dépensé, on parle quand même de dizaines de milliards d'euros depuis quelques années, et sur le simple sujet du logement, sans même aller ailleurs, et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce sont des politiques publiques qui sont totalement déconnectées du réel. Vis-à-vis de, à nouveau, de la simple école jusqu'à une politique nationale énergétique ou de logement, jusqu'en 2022 par exemple, on subventionnait encore avec MaPrimeRénov des chaudières à gaz. Dites performantes, puis on a arrêté. Oui. De la même manière, on ne subventionnait pas des projets qui avaient des pompes à chaleur réversibles parce que la climatisation était considérée comme trop énergivore, alors que ça ne vient à l'idée de personne de dire aux gens...
On l'a condamné pendant des années, la clim, c'était pas bien.
J'ai même entendu dire qu'elle avait une estampille politique maintenant, la climatisation.
Voilà, alors on a effectivement de Marine Le Pen qui nous dit que c'est très bien, à Jean-Luc Mélenchon qui nous dit que c'est très mal. Le sujet de la climatisation est devenu politique, Dany Lang.
Oui. Bon, j'ai pas trop envie de m'engager sur le sujet de la climatisation parce que j'ai pas d'expertise là-dessus, si ce n'est que ça me paraît être un pansement sur une jambe de bois.
Alors qu'il fait quand même beaucoup de bien quand il fait 42 degrés.
Oui, ça fait du bien, effectivement, à tous et à toutes, mais la vraie question...
On aimerait voir nos enfants dans des salles de classe
non,
plutôt réfrigérées.
Évidemment, mais la vraie question n'est pas celle-là. La vraie question, c'est effectivement le coût de l'inaction climatique.
Oui.
Et j'ai été très étonné des chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure, parce que chaque fois que je viens en venant, parce qu'on a les sujets un peu la veille au soir, et surtout le matin, je prépare bien, je regarde les chiffres, j'essaie de trouver des rapports à peu près sérieux. Moi, j'avais plutôt un coût de 1 euro non mis aujourd'hui dans ces questions-là, c'est 2 euros demain. Alors, vous avez sorti un 8, c'est beaucoup plus
dans
important.
Dans le logement, c'est un chiffre spécifique
pour le logement
et la rénovation de l'habitat.
Moi, j'avais plus le concept de multiplicateur en tête, c'est-à-dire on met 1 euro dans la rénovation thermique des bâtiments. Qu'est-ce qu'il en sort? C'est un peu moins élevé, mais enfin quand même, on fait toujours comme si la dépense publique, c'était un puits sans fond où on jetait de l'argent par les fenêtres, etc. Mais on oublie tout le circuit économique que ça déclenche, et notamment, c'est pas pour rien que la Fédération du bâtiment du MEDEF soutient les chiffrages à peu près sérieux de l'OFCE là-dessus, sur la nécessité de prendre la chose en sérieux. Alors, je suis pas totalement d'accord avec vous sur l'indépendance des deux sujets. Il y a la question de l'adaptation, mais il y a aussi la question de la transition écologique. Et la transition écologique, c'est pas seulement s'adapter. Le réchauffement climatique, le consensus scientifique, c'est quand même qu'il est largement issu des activités humaines ces dernières années et qu'il faut réduire la quantité de carbone émise.
Oui, mais alors là, pour le coup, on n'entend plus les climato-sceptiques et
ils sont quand même au pouvoir aux États-Unis, ils sont au pouvoir dans un certain nombre de pays, ils continuent d'avoir...
On expérimente au quotidien le réchauffement climatique.
Ils continuent d'avoir... mais attention, la température, c'est pas le climat. Hein. Le dérèglement climatique, c'est un dérèglement. C'est pas seulement le réchauffement, c'est
pas totalement décorrélé l'un de l'autre.
Extrême, non, mais évidemment, c'est pas totalement décorrélé. De la même manière, le réchauffement n'est pas décorrélé des activités humaines. Moi, je ne suis pas un partisan de la décroissance.
Donc, il faut de la décroissance, c'est la question que j'allais vous poser.
Non, mais justement,
pour réduire la production,
je ne suis pas un partisan de la décroissance dans la mesure où c'est un mot valise où vous mettez beaucoup de choses extrêmement différentes quand vous creusez les choses et qu'il y a des activités humaines qui font l'objet d'une valorisation dans le PIB qui sont absolument pas polluantes. J'inclus l'enseignement, j'inclus la police, les pompiers, etc. Tout ça, c'est valorisé. Voilà, on peut décider de valorisation non marchande d'activités utiles qui aujourd'hui ne sont pas valorisées. Mais il va falloir une vraie transition. Ça exige des moyens. Et les moyens sont ridicules par rapport aux coûts. Et notamment, dans les moyens à déployer, il y a l'isolation des bâtiments.
Oui.
L'isolation des bâtiments, rien que pour les écoles, c'est minimum 40 milliards. On met aujourd'hui dans ma prime rénov, etc., un peu moins d'un milliard et en plus on coupe là-dedans. C'est des économies de courte vue qui, produiront des effets absolument désastreux. Par ailleurs, dernière chose que je voulais évoquer quand même, il va falloir absolument réduire la part de la voiture. Moi, je suis pas du tout anti-bagnole, j'en ai une, j'aime beaucoup ma bagnole, mais c'est pas la question. Il va falloir réduire la part de la bagnole, donc remettre en route les petites lignes. Ça coûte pas tellement cher.
Ou électrifier. La crise en Iran a eu un effet prix quand même majeur sur à la fois la baisse du carburant et l'augmentation de l'achat des véhicules électriques.
206 milliards d'euros, puisque c'est 240 milliards de dollars, même si c'est, à mon avis, une fourchette haute, mais quand même.
Oui.
Puis de l'autre côté, les 7 milliards, c'est 1 milliard par an, que ça coûterait de remettre en route ces petites lignes et les remettre en état.
C'est bien parce qu'on a un désaccord radical, donc c'est bien. Radical, voilà.
Voilà.
On va le poser. Juste un exemple, parce que je le connais. Il y a des mitigeurs thermostatiques. Ça permet de donner la température de l'eau que l'on veut au moment où on ouvre le robinet. Le CSTB a analysé l'impact. Il dit que si tous les ménages français avaient un mitigeur thermostatique, c'est 2 milliards d'économies d'eau chaude, donc et d'eau et d'énergie, que l'on ferait rien que sur le territoire national. Vous imaginez en Europe et vous imaginez sur la planète. C'est du progrès technologique. C'est bien, c'est une boîte française qui s'appelle Vernet qui fabrique le composant.
Je n'ai pas dit que ça n'est pas bien.
Je vais aller au bout de ma démonstration. Je me suis retenu pour vous laisser aller au bout de la vôtre. C'est de l'industrie, c'est de la croissance, c'est de l'économie de dépenses pour les foyers, c'est de l'économie de carbone, c'est de l'économie d'eau. C'est vertueux et c'est du progrès. Je veux dire par là que le progrès est une source d'économie globale de nos ressources et c'est un moyen de lutter contre les dérèglements sur l'eau, sur l'énergie et climatique.
Ce que vous nous dites, c'est qu'on peut faire une croissance verte, Léonidas.
Mais c'est faire une croissance ciblée, et pardonnez-moi, mais cette croissance ciblée, elle a aussi une vertu de croissance économique. Je veux dire par là que ce n'est pas que de la dépense, c'est de la rentabilité.
Oui.
Quand on économise l'eau et quand on économise l'énergie, eh ben on économise tout court. Oui. Donc c'est un investissement utile. Se dire que puisqu'il y a eu de la croissance économique qui a été polluante, la meilleure manière de la combattre, c'est d'arrêter la croissance. C'est
je juste... n'ai pas dit ça.
Mais vous dites, en substance, qu'il faudrait...
Je n'ai absolument pas dit
ça. Pardonnez-moi, vous dites qu'il va falloir valoriser des choses qui ne sont pas valorisées, l'enseignement, la police, que sais-je, quelque part pour déplacer le curseur et abandonner des choses qui sont polluantes. Il faut juste faire confiance dans ce que nous avons fait depuis le début de l'humanité, c'est que le progrès amène des réponses mieux adaptées aux besoins du jour.
Je vous laisse répondre tout à l'heure, Dany Lang, je voudrais un mot d'Ingrid sur le coût, quand même. Oui. Il va falloir très probablement qu'on dépense beaucoup. Ça a été chiffré, hein, je pense notamment au rapport Pisani-Mafouz, qui a proposé des pistes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors oui, effectivement, juste je rejoins sur un point, le coût il est humain, il est économique, mais en fait ça, c'est la partie émergée, la partie qui est chiffrée, la partie émergée dans un iceberg humain, oui. À nouveau sur vraiment de la mortalité, hein, tout simplement. Et effectivement, c'est là où je parle de déconnexion du réel sur l'isolation thermique. C'est supposé que en isolant, et là on a des études récentes, y compris celle du CAE de 2024, qui nous montrent que en fait c'est un très très mauvais retour sur investissement. Que le DPE surestime très largement les écarts de consommation. Et quand on isole, est-ce qu'on isole efficacement?
Absolument. Ce qui était totalement contre-intuitif, hein, mais que les grands travaux de rénovation avaient finalement un retour sur investissement assez faible et qu'on devrait mettre l'argent ailleurs.
Et voilà. Et donc l'idée que en isolant pour très très cher avec des économies qui sont très incertaines, donc ce qui est absolument inefficace, penser que ça aura un impact sur le CO2 au niveau du monde, qui ensuite mitigera la température, puis nous permettra de ne pas avoir à nous soucier de la climatisation, c'est quand même assez illusoire. Et je vous donnais une donnée intéressante. Donc on a beaucoup investi en parlant de transition dans notamment la transition énergétique sur le photovoltaïque. Et donc hier de 11h à 15h, les prix spot de l'électricité étaient négatifs. C'est-à-dire qu'on produisait une électricité en surplus, donc du photovoltaïque, effectivement, contre la canicule, ça tombe bien, le soleil produit à fond. Et donc on était tellement en surplus qu'on n'arrivait plus à absorber. Mais en revanche, les Français, eux, ne voient pas une électricité gratuite sur leur facture. Et on a une déconnexion complète entre une offre qu'on a subventionnée à hauteur de même 8 milliards par an, hein, et on continue, et un besoin qui devient très clair.
C'est 8 milliards par an le soutien
aux énergies renouvelables. Voilà.
Bon, on a peut-être une optimisation de l'efficacité de l'euro dépensé, Dany Lang.
J'ai une réponse à vous apporter, parce que vous me faites dire des choses que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que l'isolation...
Alors, Dany Lang clarifie sa position.
Oui, non mais tout à fait. Je n'ai jamais dit que l'isolation en soi était suffisante. Il va falloir réduire les activités polluantes. Je n'ai jamais dit non plus qu'il fallait faire disparaître complètement le secteur privé. Je ne suis pas un grand fan de l'URSS, je pense que vous le savez. Ça a montré plus que ses limites ailleurs que dans l'éducation et encore.
Nous avons trouvé un point de convergence.
Oui, non, mais on a beaucoup de points de convergence d'habitude, mais on a des désaccords.
Non, mais on peut être nuancé, oui. Et pas d'accord. Et puis,
je n'ai absolument rien contre le genre d'initiative que vous signalez, mais cette illusion selon laquelle on va s'en sortir uniquement grâce aux innovations technologiques, je ne la partage pas. Ces innovations dont vous parlez, d'autant plus si c'est une boîte française, j'applaudis dès demain, c'est très louable, c'est très souhaitable et c'est typiquement le genre d'activités qui vont contribuer à la transition écologique, mais qui ne suffiront pas à faire survivre l'espèce humaine. C'est pas la même chose.
Non, si, c'est la même chose.
Non.
Si, pardon, Dany Lang, parce que il faut aller au bout du sujet, sinon nos débats sont stériles. Le problème n'est pas tellement de savoir est-ce que le progrès va répondre aux défis ou pas. C'est à quel endroit. Ce dont je suis certain, c'est que la France faisant des efforts toute seule n'a aucun impact sur la météo de la France. C'est un phénomène.
C'est un impact limité, oui.
C'est un phénomène global. Et ce phénomène global a besoin d'être attaqué sur tous les fronts. Je pense que les progrès à faire en matière d'environnement en Inde sont certainement plus importants et ont des impacts plus importants parce qu'on est très très loin de l'asymptote. Alors qu'en France, on est probablement assez proche de l'asymptote. On peut faire des progrès, ils sont très utiles. Mais je pense qu'ils font des pouillèmes sur l'impact environnemental. Donc on a probablement des réflexions, d'ailleurs il y a des réflexions qui sont menées à l'échelle de l'ONU et de penseurs qui se disent pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à prendre en main cette grande révolution qu'on doit opérer sur le climat, mais probablement que des progrès technologiques à l'échelle planétaire auront un impact sur le climat. Maintenant, sur notre échelle limitée, en revanche, il faut faire de l'adaptation. Et cette adaptation-là, effectivement, c'est la rénovation des bâtiments qui soit impactante. Et pas. Et puis, effectivement, en Grèce, en Italie, au Maroc, partout, les gens travaillent tous les jours et travaillent très très bien parce qu'ils travaillent avec de la clim.
Oui, donc, ils n'ont pas de congé climatique.
Et ils n'ont pas de congé climatique, pour l'amour du ciel. Enfin, c'est quand même invraisemblable même pensé à cela. J'avoue que c'est quand même une tournure mentale.
Je reviens sur la question des écoles, parce que ça me paraît très... Enfin, non pas parce que je suis absolument obsessionnelle des écoles, mais je trouve que c'est très, très représentatif du sujet. C'est-à-dire que une école, c'est un bâtiment extrêmement simple, c'est pas du tout un concept innovant, et les enfants sont fragiles, vulnérables, et donc on les confie collectivement à une école. Or, le fait que les écoles soient parmi les bâtiments les plus inadaptés...
7% uniquement des écoles sont équipées
avec les EHPAD, d'ailleurs,
avec
d'autres personnes,
les hôpitaux,
c'est-à-dire où sont les personnes fragiles.
Et les personnes âgées, tout à fait. Donc ça nous rappelle assez tristement la canicule de 2003. Voilà. Et ce que vous disiez tout à l'heure dans le reportage où vous disiez que la France était particulièrement inadaptée, enfin, je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village et se dire que dans le budget d'un ministère ou d'un maire, avant d'imaginer faire des plans de transition sur toute la France très sophistiqués, il faudrait déjà s'assurer que les bâtiments publics indispensables sont bien délivrent bien le service que chacun pour soi, c'est-à-dire chacun pour soi voudrait. On fait au niveau collectif des choix qu'on ne ferait jamais au niveau individuel. Vous voyez l'état de certaines écoles, évidemment, mais ça ne viendrait à l'idée d'aucun parent de mettre son enfant dans une chambre pareille pour aller se payer du foie gras à Noël. Si je prends, je fais le parallèle avec des activités festives que font certaines mairies envers certains publics qui, eux, votent, ce qui n'est pas le cas des enfants.
Oui, exactement.
Écoutez, un plan pour nos enfants dans les écoles est certainement quelque chose d'indispensable. Enfin,
parce que pour l'instant, on leur conseille de rester chez leurs parents et aux personnes âgées de ne pas prendre le train parce que
c'est trop dangereux pour eux. C'est même pas une rustine.
Voilà,
mais avec l'argent qu'on a déjà, c'est-à-dire qu'avant de faire un premier rond-point, je veux dire, un maire devrait avoir comme obsession la qualité de ses bâtiments d'accueil pour les enfants.
Et au niveau municipal, je suis désolé, vous allez m'accuser d'être bobo vert, je sais pas trop quoi, c'est pas mon cas, mais il faut de la végétalisation pour réduire
la
ville,
bien sûr, dans les métropoles.
Puisqu'on parle d'adaptation des villes, il faut de la végétalisation parce que sinon on s'en sortira pas. Il y a des travaux très sérieux sur les smart cities, etc. Il y a des études scientifiques sérieuses.
La végétalisation, c'est du progrès.
Attendez, moi je ne suis pas contre le progrès, je ne suis pas pour le retour à l'âge de pierre, je ne suis pas pour je ne sais trop quoi. Toutes les choses que vous avez en tête, c'est très bien, mais ça ne suffira pas. C'est peut-être que je ne crois pas qu'avec le progrès technologique, on va s'en sortir.
Je rebondis sur la question de la végétalisation avec deux points. Si j'étais un peu taquine, je dirais que c'était bien prévu dans la rénovation. Dans la rénovation de la gare de Nantes, mais bon, ça ne t'a pas tout à fait suffi. Mais pour aller dans votre sens, effectivement, on a le long de toutes les routes nationales de France des platanes. Et c'était quelque chose de bien pensé et de tout à fait nécessaire et pertinent. Et c'est assez frappant de voir.
On a coupé.
On les a coupés et ça contribue au réchauffement. Enfin, ça limite moins le réchauffement. Et puis, par ailleurs, ça contribue aux inondations et à d'autres problèmes écologiques.
Que c'est quelque chose d'assez, qui n'est pas tapageur, qui est assez basique, qui ne nécessite pas de faire des grands plans de communication des grandes annonces. Et à côté de mes bureaux, ça m'a frappé, il y a une pancarte du département qui dit ici, le département va planter un arbre. Ça fait des semaines que cette pancarte est près de, dans la rue à côté de mes bureaux.
On n'a toujours pas vu l'arbre.
Et je trouve ça frappant de se dire qu'aujourd'hui, il faut un grand plan de communication pour planter.
Oui,
un
c'est
arbre.
Ça. Peut-être que
on va pas s'en sortir,
ça coûte beaucoup plus cher en communication qu'en végétal. Effectivement, ça résume bien parfois l'inefficacité de l'action publique. On va se couper pour une courte pause de pub. Restez avec nous, on va parler du plan du MEDEF qui propose 30 milliards d'allègements de cotisations. On est toujours sur ce grand sujet de rapprocher le salaire brut du salaire net, le sujet du pouvoir d'achat qui va marquer évidemment la campagne 2027 des présidentielles. On va voir avec les experts ce qu'ils pensent de la proposition de l'organisation patronale. Et puis, il n'avait que ça, que ce mot à la bouche, Lord Vivatech. La souveraineté numérique européenne est-elle un rêve ? ou est-ce encore possible? Est-ce qu'on peut reprendre le contrôle sur notre souveraineté numérique? Ce sera le dernier débat. Restez avec nous, on est de retour dans une minute.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Il est 9h passé de 57 minutes, on est de retour sur le plateau des experts avec toujours autour de la table Ingrid Barra, économiste spécialiste des finances publiques, Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris Nord et Leonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments et délégué général de l'Open Internet Project. On va parler souveraineté numérique en fin d'émission, mais d'abord je voulais qu'on revienne sur cette proposition du MEDEF, l'organisation patronale, propose de transférer 30 milliards d'euros de cotisations vers la TVA, la CSG, et puis aussi de faire quelques économies. Ingrid, vous êtes spécialiste des finances publiques, Ingrid Barra. D'abord, est-ce que c'est possible? Ça fait longtemps qu'on en parle, c'est la TVA sociale. La dernière fois qu'on a essayé, ça n'a pas beaucoup réussi au gouvernement. C'était Jean-Louis Borloo en 2007, juste après l'élection présidentielle. Il s'était pris, la droite s'était pris une tannée aux législatives en proposant la TVA sociale. Bon, peut-être d'abord nous présenter ce que souhaite faire le MEDEF. De quoi on parle dans ces 30 milliards?
Alors, on parle d'une idée assez classique qui est d'augmenter la TVA pour tout le monde. Donc, ça veut dire les actifs, les inactifs, les étrangers aussi. Hein. La France est encore un pays touristique.
100 millions, oui. 100 millions de consommateurs étrangers.
La France est encore un pays touristique, on a encore cet atout-là, pour alléger les charges sur les travailleurs, et notamment la CSG, qui est un symbole d'une cotisation qui était censée être petite et
1% voilà, à sa création par Michel Rocard.
Et temporaire, et qui est aujourd'hui à 9,2, qui est plus élevé sur tous les actifs jusqu'au niveau du SMIC que sur notamment les retraités ou en tout cas les inactifs, quel que soit leur niveau de revenu, et qui est fléché à la sécurité sociale, en portant sur le travail. Et derrière ça, il y a un problème de vocabulaire qui est que la contribution sociale, et d'ailleurs et le Conseil constitutionnel et l'INSEE sont parfaitement d'accord là-dessus,
c'est un impôt, ou une contribution
parfaitement basique
sociale.
Ce n'est pas une cotisation puisqu'elle n'ouvre aucun droit particulier. En réalité, même plus généralement aujourd'hui, la sécurité sociale a plutôt dérivé vers un modèle très universaliste où en fait les travailleurs n'ont aucun droit en plus de ceux qui ne cotisent
c'est
pas.
C'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de ça, c'est-à-dire payer des cotisations ou payer une assurance, quoi. Hein, est-ce que c'est universaliste ou est-ce que je paye pour des droits
Et donc dans cette TVA sociale, si je le dis assez rapidement, il y a deux éléments. Il y a un élément de vérité du financement du modèle social. Et ça, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de prise de conscience de cet élément-là.
C'est-à-dire un élément de vérité?
Un élément de vérité sur le fait que le système social aujourd'hui, notamment le système de la santé, bénéficie à tout le monde, que ce soit les inactifs, donc les retraités, les actifs, les personnes qui n'ont pas d'emploi, donc très peu de revenus, les étrangers, y compris les étrangers en situation irrégulière, et fait un grand paquet avec même des suppressions de franchises pour les personnes qui ont peu ou pas de revenus et donc qui ne cotisent pas par définition. Et on est passé d'un modèle qui est initial de caisse assurantielle avec une association patronale à quelque chose de très universaliste et donc qui a quand même vocation à être payé par l'impôt. Ce serait plus juste envers les travailleurs, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ce serait aussi tout simplement plus efficace parce qu'effectivement, avant de dépenser, il faut produire.
Donc il faudrait sortir les cotisations patronales et salariales, les cotisations maladie. On en parle aussi beaucoup pour les cotisations famille, dont on se demande pourquoi elles reposent sur le travail, pour les transférer vers l'impôt.
C'est ce que voudrait la logique démocratique et la logique économique.
Alors, oui, juste parce que c'est une proposition que un certain nombre de... Enfin, moi, j'ai signé une tribune avec Gilles Attaf, le président d'Origine France Garantie, en faveur de cette TVA qui viendrait capter effectivement quelques dizaines de milliards de la production, c'est-à-dire du travail, vers la consommation. Parce que derrière, il y a aussi cette idée-là, c'est que l'ensemble de nos dépenses sociales repose exclusivement sur le travail. Alors, pas totalement exclusivement, parce qu'on a commencé un peu ce type de transfert, mais de le porter beaucoup plus vers la consommation. Pourquoi? Parce que tous les produits que nous consommons et que nous importons, avec une balance commerciale extrêmement déficitaires sont des produits qui ne portent en rien la charge de notre protection sociale, qui est aujourd'hui la première dépense de notre pays, la première charge que nous avons à supporter. Et donc, comme le travail supporte l'ensemble, le décalage qu'il y a entre le salaire net et le salaire brut est un décalage tel que tous ceux qui rentrent dans le monde du travail, eh bien, peinent énormément à voir la différence dans leur vie, perdent en valeur travail, non pas la valeur, j'allais dire, sentimentale ou émotionnelle.
La valeur
ou
sonnante et trébuchante.
La valeur sonnante et trébuchante. Et la stimulation au travail étant, j'allais dire, déréliction totale. Donc, il n'y a pas uniquement un transfert de compte, c'est pas uniquement un sujet comptable. C'est remettre.
On a un peu l'impression, c'est ça.
Non,
c'est de la tuyauterie fiscale au social,
de
l'autre.
C'est pour ça que je. Non.
Bon, le travailleur est aussi un consommateur, donc s'il finit par payer en TVA ce qui est payé sur son salaire.
Non, pardon, vraiment, je voudrais vraiment y insister, c'est pas simplement comptable, c'est que vous avez la volonté de mieux rémunérer le travail, et le différentiel que vous allez perdre sur la consommation, parce que la TVA sur les produits de grande consommation, c'est pas la TVA alimentaire dont nous parlons, c'est la TVA à taux normal.
Oui.
Donc cette TVA-là va effectivement remonter un peu, mais n'oubliez pas qu'il va y avoir 100 millions de touristes qui vont contribuer également payer cette facture-là. De surcroît, les 2%,
ainsi que les importations,
2% d'augmentation de la TVA, c'est pas 2% d'augmentation des prix, c'est 2% d'augmentation de cette fraction de TVA, donc c'est une augmentation beaucoup plus faible des prix.
C'est 2% de 20%.
C'est 2% de 20%, absolument. Donc vous avez, ça se transforme en pouillème sur, les produits de consommation. Donc entre ce que vous allez gagner en pouvoir d'achat grâce à l'augmentation de votre salaire, parce que les cotisations ont baissé, et le peu que vous allez perdre sur la consommation, on est totalement gagnant, et ça remet du carburant dans ce facteur essentiel dont notre pays a besoin, qui est la valorisation du travail, ce qui est le moteur de la production et de notre conquête industrielle.
Si on augmente le point de TVA, Léonidas, mais je ne pense pas que ce soit 2% des 20%, c'est qu'on passe de 20 à 22.
De 20
et donc
à 22.
Et donc c'est 10% d'augmentation de TVA.
D'accord, mais pas 2% des prix de l'ensemble.
Enfin, certes, absolument. Dany Lang.
Alors, là, cette fois, on est en désaccord absolument radical, pour plusieurs raisons. Premièrement, je suis d'accord pour dire qu'on a fini par faire un système universel. Mais c'est déjà dans l'intérêt des Français que le système soit universel. Les maladies, elles ne s'arrêtent pas aux gens qui sont salariés et qui travaillent. Ça touche, et la vieillesse non plus, ça touche leur famille, ça touche leurs proches, ça touche les gens qu'ils croisent. Donc c'est aussi dans l'intérêt collectif d'avoir le moins de gens malades possible. Les microbes, ils ne choisissent pas entre eux, les personnes.
Et du coup, ce qui pose la question du financement, effectivement, qui au départ reposait sur les travailleurs dans des caisses professionnelles, et si ça maintenant bénéficie à tout le monde, c'est l'évolution. Et
sauf
c'est
que la sécu,
peut-être que
telle
tout le monde
a été
doit
pensée,
y contribuer. C'est ce que souligne Ingrid Barra.
Sauf que la sécu, telle qu'elle a été pensée par Ambroise Croizat et mise en œuvre par le gouvernement du général de Gaulle, c'était l'idée. C'était l'idée de départ, que ça bénéficie à tout le monde de manière égale, etc., et que ce soit des cotisations. Et les cotisations, c'est pas une charge, la cotisation, c'est une part de salaire qui est socialisée. Donc, on peut regretter l'écart entre le salaire brut et le salaire net, mais dans les pays où il y a moins d'écart, les gens payent, je suis désolé de le dire, un pognon de dingue en assurance complémentaire privée. Et la première dépense de ces assurances complémentaires privées, c'est de payer des avocats pour ne pas indemniser les gens. Donc moi, je préfère avoir un système public qui soit généreusement financé. Après, laissez-moi finir. Donc, le système public qui soit généreusement financé, mais par ailleurs, je reconnais qu'il y a un problème, effectivement, de financement de ce système.
Disons que ça pèse sur le pouvoir d'achat des travailleurs, quoi.
Mais la TVA, elle pèse encore plus sur le pouvoir d'achat. Et quand on regarde, on parle souvent de matraquage fiscal, mais quand on regarde les impôts qui sont payés selon le décile auquel vous appartenez, qui c'est qui paye le plus? C'est les gens qui sont tout en bas. Ils payent pas d'impôts sur le revenu, mais ils payent la CSG, la TVA, les impôts sur l'essence, les impôts sur le gaz, etc., etc. Les classes moyennes. Et puis finalement, quand vous dépassez les 90%, ça chute. Et ça chute pas au même endroit selon les pays. Et je renvoie à l'excellent travail qui a été fait par Monsieur Zucman sur commande du G20 en 2024. qui montre ça très bien en France comme ailleurs. Donc, accroître encore la pression fiscale des gens qui sont en bas et les classes moyennes, tout en, par ailleurs, faisant semblant de redonner ça aux salariés, parce que je suis pas sûr. À mon avis, derrière, c'est les mutuelles qui vont peser de plus en plus lourd. Je suis pas sûr que ce soit une bonne
idée. Alors, il y a deux questions importantes que soulève Dany Langlas. C'est un, ce qu'on entend souvent, hein, c'est qu'augmenter la TVA, c'est injuste. Et deux, est-ce qu'un allègement de cotisation renforcerait forcément le salaire des actifs, Ingrid Barra?
Alors, préalablement, deux points. Le premier, c'est que dans les travaux de M. Zucman, toutes les cotisations sont bien prises comme des impôts, c'est-à-dire quelque chose dont vous ne revoyez jamais la couleur. Et donc, vous venez de souligner à juste titre que, effectivement, l'idée du salaire différé tel qu'il fonctionne aujourd'hui dans une sécurité sociale universelle est une idée fantoche. Ce n'est pas la réalité. Oui. C'est pas un salaire qui vous est personnel et que vous retrouvez selon une équation fixe fiable. Ça c'est pas vrai.
Vous le retrouvez si vous êtes malade et vous le retrouvez quand vous prenez
dans
la retraite,
le travail de M. Zucman, donc c'est bien un impôt et donc c'est le voisin qui le retrouve, ou peut-être vous ou peut-être pas. Mmh. Et aujourd'hui ce qui va plutôt dans le sens de la proposition, c'est que sur la TVA que vous payez, il y a un quart qui va déjà à la sécurité sociale, donc on est déjà dans un financement par l'impôt.
Ça, c'est
et
vrai.
En fait, simplement un financement pragmatique, c'est-à-dire que ce qui a longtemps été fait, et c'est le cas de la CSG, c'était de penser que si on pouvait grappiller un petit peu sur les salaires, qu'il y avait une croissance, parce qu'il y avait un peu de productivité, il y avait un peu de marge, et on se disait qu'en grappillant, on pouvait essayer d'éviter effectivement ce choix entre pouvoir d'achat et protection sociale, et ben en fait ça ne marche plus du tout aujourd'hui pour les salariés, parce qu'effectivement, pour répondre à votre question sur le fait que ça se retrouve dans les salaires, c'est une des données économiques les plus stable.
Oui.
À travers les décennies et à la fois à travers les économies avancées, qu'il y a un partage entre le capital et le travail, donc deux tiers pour le travail, un petit peu plus, et un tiers pour le capital, et que dès lors qu'il y a des modulations fiscales, ça se retrouve dans la poche des salariés quand c'est en leur faveur, et à l'inverse, quand c'est des cotisations qui augmentent, ça freine leur salaire net.
Je voudrais aller au bout du désaccord avec Daniel. Je trouve que c'est un désaccord intéressant. Hein. Il est intéressant parce que dans l'idée, l'idée était belle. L'idée, vous citez effectivement les pères de la sécurité sociale, mais vous voyez bien qu'avec l'explosion des dépenses sociales, avec ce salaire différé qui n'a fait que croître, avec le fait qu'il ne pèse que sur le travail qui est réalisé en France, c'est-à-dire qu'il ne se répercute que sur les prix des produits fabriqués en France, nous sommes arrivés à cette folie qui est que, pour une part considérable, les produits sont plus compétitifs quand ils viennent d'ailleurs. Donc, nous avons une balance commerciale qui est totalement déséquilibrée. Donc, nous avons du travail qui est perdu. Donc, puisque nous avons du travail qui est perdu, l'assiette sur laquelle repose notre protection sociale est de plus en plus réduite. Et donc le modèle repose sur de moins en moins de gens, il pèse sur eux de plus en plus, et donc on est rentré dans un cercle vicieux. Donc la question que nous nous posons n'est pas de savoir si l'idée d'origine était belle ou pas, je veux bien partager avec vous qu'elle était belle. Je dis simplement qu'elle est en train de ruiner, et qu'on ne bâtit pas un modèle social pérenne, durable, sur un pays ruiné. Donc ce que je vous propose, c'est que nous puissions nous retrouver sur la beauté de l'idée et que l'on essaie de voir comment on peut sauver l'idée en la corrigeant par rapport au dysfonctionnement auquel on assiste, qui nous saute à la figure. Et là où je ne vous comprends plus, c'est comment nous ne pourrions pas nous retrouver pour sauver le modèle en le corrigeant, et où vous voudriez vous accrocher au modèle, quand bien même ça serait le radeau de la Méduse.
La réponse de Danilo.
Alors, non, je ne suis pas d'accord avec cette manière de voir. Je suis d'accord avec une partie des choses que vous avez dites, c'est-à-dire sur les importations, effectivement, vous avez tout à fait raison, mais il y a d'autres manières de corriger les choses, et notamment, je suis désolé, c'est pas une idée très populaire, ça marche pas très bien aux États-Unis, mais le protectionnisme, en fonction des droits sociaux qui sont accordés dans les différents pays, ça peut se mettre en œuvre.
Cette augmentation de TVA est une part de réponse protectionniste.
Sauf qu'elle s'applique indifféremment à tous les produits qui soient fabriqués en France ou non. Donc, c'est la différence. Moi, effectivement, j'ai envie d'instaurer une taxe kilométrique qui est déjà partiellement en œuvre, mais qui soit écologique. Et puis, j'ai aussi envie d'instaurer une taxe sociale qui soit inversement proportionnelle à des indicateurs qui sont certes imparfaits sur les droits sociaux. Par ailleurs, l'un des problèmes
une taxe sociale sur les droits sociaux, je vois.
Une taxe qui soit inversement proportionnelle aux droits sociaux dans le pays d'origine. Et comme le soulignait très
pour la TVA ou pour la CSG, c'est-à-dire des impôts proportionnels, mais qui seraient progressifs.
Non, sur les produits importés, les pays qui ne respectent pas les droits sociaux payent plus de droits de douane que les pays qui respectent les droits sociaux. D'ailleurs, comme le soulignait à juste titre dans son livre Denis Père, c'est pas mon... Denis Père souligne à juste titre qu'on est en concurrence, on est dans un capitalisme 3-0, on est en concurrence avec le capitalisme 1-0, ça va pas. Donc à un moment, on corrige par des droits de douane.
Donc des droits de douane en fonction de...
D'accord. Donc, et l'équilibre du système, je suis désolé, mais le problème majeur, effectivement, c'est que l'équilibre du système aujourd'hui est assuré par un nombre de travailleurs de plus en plus faible, et parce qu'on a accepté aussi, depuis 40 ans, d'avoir constamment 3 millions de chômeurs officiels. Quand on prend les gens qui sont en travail contraint, partiel, qui aimeraient travailler à temps plein, on arrive à 5 millions. Si ces gens travaillaient à temps plein, et si les femmes étaient payées au même niveau que les hommes, l'un ou l'autre, le régime serait largement équilibré. Enfin, dernier argument, moi je suis alsacien, en Alsace-Lorraine, le régime est équilibré, on paye un peu plus de cotisations sociales, personne n'est mort.
Ingrid Bas. Vous n'avez pas l'air tout à fait convaincu.
Non mais en fait c'est marrant parce que sur ce raisonnement sur les importations, je crois que je vois ce que vous voulez dire, mais si en fait on suit le raisonnement, il faudrait imposer aux importations un écart de taxation qui correspondrait à l'écart entre en gros la fiscalité française et la fiscalité étrangère, puisque
le respect des droits sociaux,
c'est de la fiscalité sociale pour l'essentiel, si je suis votre raisonnement. Et donc en fait ce serait un renchérissement assez significatif, hein, puisqu'on est évidemment le pays le plus les plus taxés du monde. Et en fait, ce que vous proposez revient en quelque sorte à la proposition, mais par des voies détournées, c'est-à-dire qu'évidemment, on augmenterait très significativement le coût des prix importés, je sais pas, peut-être d'une dizaine de pourcents au moins, et donc ça se retrouverait dans le pouvoir d'achat de tous, y compris...
Pas sûr, parce qu'on a des entreprises françaises qui sont très bien, vous savez, et qu'il va falloir développer.
Oui, mais la TVA sociale fait exactement ça, sans le cacher, c'est-à-dire sans dire aux gens, en fait, vous inquiétez pas, ça ne pèsera pas sur le pouvoir d'achat, parce que quand on taxe les importations, on taxe bien, effectivement, les à peu près 19% du panier de consommation des Français qui est importé.
Donc tout le monde est pour la TVA sociale, si je comprends bien, même sur des avis différents.
Pas du tout.
Moi, je trouve quand même que ça mérite aussi d'avoir une réflexion sur est-ce que nous sommes un pays de producteurs ou un pays de consommateurs. Et on est rentré dans cette folie depuis longtemps. On se dit, finalement, on va avoir du revenu universel, les produits, c'est polluant, donc on va les faire produire ailleurs. Nous, on va faire consommateurs, quoi, dans la division internationale.
Ça, on est complètement d'accord. On avait créé, avec quelques collègues pendant un certain nombre d'années, Manifeste pour l'industrie, pour remettre des industries en France. Ces délires-là, j'ai toujours trouvé ça n'importe quoi. Grosso modo, on met les trucs polluants en Chine. Non, il faut réindustrialiser, réimporter et imposer des taxes sur les produits qui ne respectent pas les droits environnementaux et sociaux. C'est non seulement du pragmatisme, ça contribue aussi à la réindustrialisation.
Je voudrais quand même... Alors, je l'entends et j'apprécie beaucoup.
Rapidement, parce qu'il faut qu'on passe au dernier débat.
J'apprécie beaucoup, mais cela dit, je trouve quand même que nous devrions pousser la réflexion sur la TVA sociale, en l'occurrence, parce que 2-5% de TVA sur le taux normal en plus, ça permet d'aller cibler toutes les importations dont vous parlez, de lisser, sans pour autant créer une guerre commerciale avec les pays concernés. Et donc, je pense que c'est potentiellement une voie qui mérite de poursuivre la réflexion en commun. Nous pourrions finir par nous retrouver, me semble-t-il.
Allez, il est 10h passé de 15 minutes, c'est l'heure du dernier débat ensemble. Je voulais qu'on parle souveraineté numérique ce matin. L'Europe peut-elle reprendre son contrôle numérique? C'était l'un des grands sujets du salon Vivatech qui a clôturé ses portes en fin de semaine dernière. La souveraineté est devenue le mot d'ordre. Mais entre le cloud américain, les puces asiatiques et le retard d'investissement en Europe, est-ce qu'on peut vraiment encore reprendre la main. Leonidas Kalogeropoulos, je rappelle que vous êtes le délégué général de l'Open Internet Project.
Et d'abord, merci, parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, d'autant que l'Open Internet Project a été créé notamment par Olivier Sichel, qui à l'époque dirigeait le guide.com.
Aujourd'hui, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Et notamment pour mener une bataille qui était Google Shopping.
Oui.
2,4 milliards d'amendes. Contre
grand
Google.
Dossier bruxellois de concurrence.
12 ans d'instruction hein, avant que le premier euro ne soit versé.
Oui. Non,
donc vous faites 2,4 milliards divisé par 12, vous voyez si ça a un impact sur les comptes de Google. Mais l'Open Internet Project s'était créé avec un ensemble d'acteurs du numérique souverain, que ce soit Clever Cloud, que ce soit Weller, que ce soit comment dirais-je, Olvid et ou Quant. Ce sont des acteurs qui se battent effectivement au OVH pour la souveraineté numérique, oui, et pour la capacité que nous aurions à résister. Alors, qu'est-ce que faisait l'Open Internet Project ? D'abord, on s'emparait de tous les outils d'antitrust pour mener des batailles. Mais finalement, on voit que les batailles, c'est pas en restant petit et en menant des batailles contre les gros que l'on va gagner cette guerre-là. Il faut qu'on grossisse.
Rappelle qu'OVH, c'est 2% du marché du cloud européen. Hein.
Oui, mais c'est déjà bien que nous l'ayons, et si nous ne l'avions pas, absolument, nous ne serions pas capables de nous battre. Et si nous avons la chance d'y arriver, c'est qu'à un moment donné, les 50 milliards, je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, 50 milliards de dépenses publiques de commandes de numérique vers des acteurs étrangers.
Au niveau européen, rassurez-moi, parce que je vous rappelle qu'on a 130 milliards de déficit cette année, cher Leonidas.
Alors, soudain, je vous assure que je suis saisi d'un doute. Je crois que les 50 milliards sont des dépenses nationales. Et en l'occurrence, dans nos commandes...
Ça va faire beaucoup.
Dans nos commandes publiques... si, non, mais la commande publique, ouais, malheureusement, ne cible pas... D'ailleurs, vous avez beaucoup de discours sur la souveraineté.
C'est l'un des sujets des textes européens actuellement, passe, sur la souveraineté numérique
donc,
à Bruxelles.
Donc, il y a un levier qui est absolument essentiel. C'est effectivement la commande publique, mais également la commande privée.
Oui.
Je vous rappelle que quand vous avez, et on n'arrivera pas à avoir notre souveraineté industrielle qui nous est chère à tous les quatre, si on n'a pas de souveraineté numérique, imaginez d'avoir votre, comment dirais-je, votre système numérique de gestion client qui est américain. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le kill switch de
Anthropic.
Du jour au lendemain, votre CRM peut s'arrêter parce que l'acteur américain, qui est dominant à 90%, peut se voir assigner l'ordre d'arrêter de servir tel ou tel client ou tel et tel pays. Le degré de dépendance dans lequel nous sommes, nous l'avons vu sous nos yeux ce samedi dernier à 17h21, quand soudain les États-Unis ont décidé de couper Anthropic. Ça peut nous arriver à n'importe quel moment, sur n'importe quelle solution. Donc il faut que l'on rééquilibre notre puissance de feu numérique, et ce rééquilibrage, la bonne nouvelle, et on l'a vu d'ailleurs avec Vivatech, c'est que nous avons des solutions qui sont parfaitement opérationnels. Je pense à WIMI, qui est une suite collaborative qui sert l'Assemblée nationale et énormément d'acteurs publics. Dans tous les domaines, nous avons les briques. Alors, c'est vrai, les GAFAM, il y en a 5, ils ont tout verticalisé, ils ont tout dedans. Nous avons des solutions qui sont plus dispersées, mais on les a toutes. Structurons-nous et la bataille est gagnable.
Bon. Dany Lang.
Alors, c'est un sujet sur lequel j'ai peu de compétences, je partage largement.
C'est un sujet qui envahit notre quotidien aujourd'hui. Il y a une lien absolument de partout.
Qui envahit notre quotidien, effectivement, mais je voulais quand même dire une chose. Pendant très longtemps, dans les traités européens, il y avait la possibilité de donner des financements prioritaires pour les marchés publics aux entreprises nationales. Ben, je suis désolé, il va falloir revenir à ce genre de disposition, parce que c'est aussi à cause de la politique de la concurrence qui, pour des raisons historiques, des raisons de souveraineté, justement, de renoncement de souveraineté, on a mis au cœur de la construction européenne. Il va falloir revenir dessus et revenir à cette vieille sagesse qui n'est pas anti-européenne, de dire les commandes publiques doivent en priorité servir les entreprises nationales. Mais ça, pourquoi aujourd'hui est-ce que les acteurs américains ont pu remporter toutes les commandes publiques ? Parce qu'ils sont beaucoup plus gros, beaucoup moins chers et beaucoup plus efficaces, quoi. Alors qu'on a des entreprises européennes qui
ont eux-mêmes bénéficié de la commande publique américaine. Hein.
Bien sûr.
Exactement.
Piqué aux hormones.
Et quand, comme utilisateur scientifique, quand vous utilisez les différentes IA, moi j'ai essayé d'utiliser l'IA française, qui est pas mal du tout, mais elle n'est pas au niveau de performance.
Qui arrive 54e dans le classement mondial.
Elle
n'est
pas au niveau
pour les tâches scientifiques. André Lecoup, Pietri, la semaine dernière.
Je la trouve beaucoup mieux que ChatGPT, mais je la trouve moins bien qu'Anthropic. Elle est beaucoup moins efficace pour tout ce qui est tâches scientifiques, modélisation, programmation, etc. Donc, c'est aussi parce qu'on a ces règles européennes qui nous interdisent de prioriser la commande publique, alors que finalement l'argent public, la commande publique, c'est l'argent des Français, des Allemands, etc. Ça
bah
devrait
oui.
aller en priorité.
C'est aussi l'union des marchés de capitaux qui a tellement de mal à se faire au niveau européen. Mais c'est le grand sujet du moment, hein, cette préférence européenne, Ingrid Barra.
Alors, sur le deux points, je voudrais un peu dézoomer sur la souveraineté et sur le fait que je veux dire, on est souverain que quand on a quelque chose à proposer, quand oui. on a quelque chose chez soi qui a de la
magasin,
valeur.
Oui.
D'ailleurs, on ne peut pas être souverain au sens autonome sur tous les plans. Si on voulait être en autarcie sur tous les plans, pourquoi pas, hein, mais on vivrait sans doute
choisir ses briques.
Une vie un peu plus fade et un peu plus compliquée. Donc, être souverain, c'est d'abord s'assurer qu'on a quelque chose à proposer. Et je vais dire quelque chose d'un peu provocant, mais en fait, personne ne nous doit des puces, une IA, des minéraux. Personne ne nous doit ça. Ça n'existait pas ou ça n'était pas un sujet il y a quelques années seulement. Hein. Si on remonte encore plus loin, ça n'était pas un sujet non plus. Et donc la seule raison pour laquelle, que ce soit les Chinois, les Américains ou autres, nous garantirait ou nous assurerait une forme de d'importation oui. technologique, oui. c'est si on a quelque chose à proposer en face. Et donc ça veut
c'est
dire
du rapport de force quoi.
C'est créer de la valeur pour obtenir oui. de la valeur. On pourrait tout à fait se dire qu'on serait beaucoup mieux à rester à l'époque du Minitel, mais je suis pas sûre que beaucoup de Français soient convaincus et pour aller avancer un peu plus dans le temps, ne serait-ce qu'à l'époque des cartes routières, je sais pas s'il y a beaucoup de Français qui seraient prêts à renoncer à Google Maps aujourd'hui. Donc sans vouloir faire de la pub publicité indue, pardon, hein, mais voilà. Et sur la commande publique, il y a un sujet qui est un peu mal abordé parce que si on se concentre uniquement sur le fait de dire qu'il faut que ce soit français, bon bah effectivement les entreprises en conséquence seront très ravies, mais les Français, je suis pas sûre.
Oui.
C'est-à-dire que effectivement, si c'était pour faire du Minitel, bon les Français en seront peut-être pas ravis. En revanche, l'idée que pour vous rejoindre dans la commande publique, il y ait des critères de résilience, c'est-à-dire effectivement il y a des critères de dire peut-être que les forces de sécurité ou autres ne devraient pas avoir des choses qui soient débranchables sur des serveurs à l'étranger ou ce genre de choses,
oui.
ça c'est tout à fait pertinent et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder en se disant est-ce que ouais, y a certaines choses dans la commande publique qui font que on a besoin d'un peu plus de sécurité et la sécurité à nouveau, ça se paye.
Où est-ce qu'on la met, la préférence Mais européenne
en l'occurrence, on a un grand allié hein, pour cette souveraineté nationale et européenne. Il s'appelle Donald Trump. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, on se dit qu'il faut se protéger.
Oui.
Et véritablement, je suis extrêmement heureux de voir qu'après qu'on ait passé des années à halluciner sur le fait qu'on ait confié à Palantir une boîte qui est née totalement de la commande publique américaine. Enfin, ils étaient cinq, ils ont eu plusieurs
Palantir
milliards de commandes publiques.
Palantir qui fait de la surveillance hein.
Oui,
de
mais, bon, et qui servait
utilisé la DGSI, par tous les services de renseignement.
La DGSI est passée à Chat Vision, qui est une boîte extraordinaire et dont on n'entend pas beaucoup parler.
Alors Palantir a démenti la semaine dernière. Je n'ai pas la vérité entre les deux points de vue, mais la DGSI effectivement
la DGSI
a dit sortez Palantir et Anthropic a dit
il y avoir
pas
une
au courant.
Partie de contrat qui reste qui permet de démentir, mais enfin l'essentiel est passé à Chat Vision. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à passer à Chat Vision? Parce que Chat Vision existe.
Ah oui.
Et est-ce que Chat Vision était aussi gros que Palantir? Quand Palantir non. Non. Mais donc, si on ne commence pas à mener ce combat, on reste petit. Et celui qui est petit, eh bien, quand on lui donne des moyens, eh bien, il devient plus grand. Je veux dire, là, les réflexes auxquels on assiste, Clever Cloud et OVH ont été invités par la Commission européenne à offrir une solution cloud qui soit efficace. Quant a été invité à offrir une solution de recherche à la place de Google. Donc, petit à petit, on est en train de reconquérir du terrain. Et ici même, autour de cette table, je me souviens d'un de vos prédécesseurs qui me disait mais les gars, est-ce que Quant un jour pourra rivaliser véritablement oui. avec Google? Je dis mais ça demande un certain nombre de conditions. Une de ces conditions est en train d'être remplie, c'est que ce qui a permis à Google d'être ce qu'il est aujourd'hui, qui est une masse d'apports financiers et de commandes publiques, eh bien petit à petit, il y a la commande publique qui arrive. Et là où je suis bien entendu d'accord avec Ingrid Barra, c'est qu'il ne s'agit pas d'être obsessionnel et de commencer à entretenir des petites boîtes qui n'auraient pas une ambition de performance. Il faut avoir cette ambition de performance et il faut offrir aussi bien et idéalement beaucoup mieux à nos clients nationaux et européens.
Sauf que c'est absolument pas le cas aujourd'hui, Léonidas.
Il faut commencer, une domination technologique écrasante
et des Américains.
Et si on ne commence pas, on n'y arrivera jamais.
Il faut commencer.
Et par ailleurs, n'oublions pas non plus que Palantir, etc. C'est le résultat déjà du non-respect de la propriété intellectuelle d'autrui. Hein. Google Maps a été volé aux Allemands, à des Allemands qui avaient inventé le système dans les années 90. Et c'est aussi des subventions publiques massives, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que les Français, c'est que le Minitel. Le Minitel, c'était une invention géniale, mais on a aussi Quant, qui, j'en suis désolé, moi, je trouve ça mieux que Google, parce que les résultats sont très efficaces, beaucoup plus objectifs et beaucoup
moins
orientés.
Vous utilisez Quant au quotidien ?
Quant, et à l'étranger, quand Quant n'est pas disponible, j'utilise Ecosia. Mais j'utilise Quant au quotidien, parce que c'est beaucoup plus efficace que Google, quand on fait des recherches. Et par ailleurs, OVH, c'est une des entreprises formidables. On a le potentiel en France et en Europe pour faire concurrence, mais on n'a pas mis l'argent public massif qu'ont mis les États-Unis dans ces entreprises.
Un mot très simple, vous parlez de l'union des capitaux tout à l'heure, ça suppose d'avoir un environnement fiscal et un environnement réglementaire extrêmement compétitif, et donc à nouveau, recentrer l'État seulement sur l'indispensable, et ça peut être effectivement dans la commande publique quelque chose de résilient.
Vous dire qu'il y a Numérique France Garantie qu'on a lancé avec Origine France Garantie pour mettre ensemble, voyez, la souveraineté industrielle et la souveraineté numérique elles vont de pair.
Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Léonidas Kalogeropoulos, Dany Lang et Ingrid Barra, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Tout de suite, c'est Air et Défense, animé par Jean-Baptiste Huet. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.